Marivaux, La vie de Marianne, 11e partie. Il me semble vous entendre d'ici, madame. Quoi, vous écriez-vous, encore une partie? Quoi, trois tout de suite? Et par quelle raison vous plaît-il d'écrire si diligemment l'histoire d'autrui, pendant que vous avez été si lente à continuer la vôtre? Ne serait-ce pas que la religieuse aurait elle-même écrit la sienne, qu'elle vous aurait laissé son manuscrit et que vous le copiez? Non, madame, non, non, je ne copie rien. Je me ressouviens de ce que ma religieuse m'a dit, de même que je me ressouviens de ce qui m'est arrivé. Ainsi, le récit de ma vie ne me coûte pas moins que le récit de la mienne, et ma diligence vient de ce que je me corrige. Voilà tout le mystère, vous ne m'en croirez pas, mais vous le verrez, madame, vous le verrez. Poursuivons. Nous nous retrouvâmes sur le soir dans ma chambre, ma religieuse et moi. Voulez-vous, me dit-elle, que j'abrège le reste de mon histoire? Non que j'aie le temps de la finir cette fois-ci, mais j'ai quelque confusion de vous parler si longtemps de moi, et je ne demande pas mieux que de passer rapidement sur bien des choses pour en venir à ce qu'il est essentiel que vous sachiez. Non, madame, lui répondis-je, ne passez rien, je vous en conjure. Depuis que je vous écoute, je ne suis plus, ce me semble, si étonné des événements de ma vie. Je n'ai plus une opinion si triste de mon sort. S'il est fâcheux d'avoir, comme moi, perdu sa mère, il ne l'est guère moins d'avoir, comme vous, été abandonné de la sienne. Nous avons tous deux été différemment à plaindre. Vous avez eu vos ressources et moi les miennes. À la vérité, je crois jusqu'ici que mes malheurs surpassent les vôtres, mais quand vous aurez tout dit, je changerai peut-être de sentiment. Je n'en doute pas, me dit-elle, achevons. Je vous ai dit que mon voyage était résolu et je partis quelques jours après avec la dame dont je vous ai parlé. J'aurais été payé d'une moitié de ma pension et cette dame, que madame d'Orfrainville avait bien voulu recevoir pour moi sur ma quittance, avait été donnée de fort bonne grâce. Madame d'Ursan avait même offert de l'augmenter. « Nous ne serons pas longtemps sans vous suivre, me dit-elle la veille de mon départ. Mais si par quelque accident imprévu, vous avez besoin de plus d'argent avant que nous soyons à Paris, écrivez-moi, mademoiselle, et je vous en enverrai sur le champ. » Ce discours fut suivi de beaucoup de protestations d'amitié, qui n'avaient qu'un défaut, c'est qu'elles étaient trop polies. Je les aurais crues plus vraies si elles avaient été plus simples. Le bon cœur ne fait point de compliments. Quoi qu'il en soit, je partis, toujours incertaine du fond de ses sentiments, et par là, toujours inquiète du parti qu'elle prendrait, mais en revanche, bien convaincue de la tendresse du fils. Je ne vous en dirai que cela. Je n'ai que trop souffert du ressouvenir de ce qu'il me dit alors, aussi bien que dans d'autres temps, il a fallu les oublier, ses expressions, ses transports, ses regards, cette physionomie si touchante qu'il avait avec moi, et que je vois encore. Il a fallu n'y plus songer, et malgré l'état que j'ai embrassé, je n'ai pas eu trop de 15 ans pour en perdre la mémoire. C'était dans un carrosse de voiture que nous voyagions, ma compagnie et moi, et nous n'étions plus qu'à 20 lieues de Paris quand, dans un endroit où on s'arrêta quelque temps le matin pour rafraîchir les chevaux, il vint une dame qui demanda s'il y avait une place pour elle dans la voiture. Elle était suivie d'une paysanne qui portait une cassette et qui tenait un sac de nuit sous son bras. « Oui, lui dit le cocher, il y a encore une place de vide à la portière. »« Eh bien, je la prendrai, répondit la dame qui le paya sur le champ et qui monta tout de suite en carrosse après nous avoir tous salués d'un air qui avait de la dignité, quoique très honnête et qui ne sentait point la politesse de campagne. Tout le monde le remarqua, et je le remarquai plus que les autres. Elle était assise à côté d'un vieux ecclésiastique qui était allé plaider à Paris. Ma compagne et moi, nous remplissions le fond du devant, et celui de derrière était occupé par un homme âgé, indisposé, et sa femme. Dans l'autre portière était un officier, la femme de chambre de la dame avec qui je voyageais, et qui avait encore un laquais qui suivait le carrosse à cheval. Cette inconnue que nous prîmes en chemin était grande, bien faite. Je lui aurais donné près de 50 ans. Cependant, elle ne les avait pas. On eût dit qu'elle relevait de maladie, et cela était vrai. Malgré sa pâleur et son peu d'embonpoint, on lui voyait les plus beaux traits du monde, avec un tour de visage admirable, et je ne sais quoi de fin qui faisait penser qu'elle était une femme de distinction. Toute sa figure avait un air d'importance naturelle qui ne vient pas de fierté, mais de ce qu'on est accoutumé aux attentions et même au respect de ceux avec qui l'on vit dans le grand monde. À peine avions-nous fait une lieue depuis la buvette que le mouvement de la voiture incommoda notre nouvelle venue. Je la vis pâlir, ce qui fut bientôt suivi de maux de cœur. On voulait faire arrêter, mais elle dit que ce n'était pas la peine et que cela ne durerait pas. Et comme j'étais la plus jeune de toutes les personnes qui occupaient les meilleures places, mais ce n'était pas la peine de nous arranger là-dessus, et mes inquiétudes ne devaient pas finir si tôt. Ni mon frère, ni ma belle-sœur, c'est-à-dire ni monsieur le marquis, ni sa femme, n'étaient chez eux. Nous sûmes de leur Suisse que depuis 8 jours ils étaient partis pour une campagne à 15 ou 20 lieues de Paris. Quant à ma mère, elle ne se logeait point avec eux, et on ignorait sa demeure. Tout ce qu'on pouvait m'entendre dire, c'est que ce jour-là même, elle était venue à 11 heures du matin pour voir son fils, dont elle ne savait pas l'absence, qu'elle avait paru fort surprise et fort affligée de le trouver parti, qu'elle arrivait elle-même de campagne à ce qu'elle avait dit et qu'elle s'était retirée sans laisser son adresse. À ce récit, je retombai dans des frayeurs dont je vous ai parlé, et je ne pus m'empêcher de soupirer. Vous dites donc qu'elle était affligée du départ de monsieur le marquis, répondis-je à cet homme. Oui, mademoiselle, me répondit-il, c'est ce qui m'en a semblé. Et comment est-elle venue ici, ajoutai-je, par je ne sais quel esprit de méfiance sur sa situation, et comme cherchant à tirer des conjectures sur ce qu'on allait me répondre, était-elle dans son équipage ou dans celui d'un de ses amis? Oh, d'équipage, me répondit-il. Vraiment, mademoiselle, elle n'en a point. Non, elle était toute seule et même assez fatiguée, car elle s'est reposée ici près d'un quart d'heure. Toute seule et sans voiture, m'écriai-je, la mère de monsieur le marquis? Voilà qui est bien horrible. Ce n'est pas ma faute, et je saurais dire autrement, me répartit-il. Au surplus, je ne me mêle point de ces choses-là, et je réponds seulement à ce que vous me demandez. Mais, lui dis-je en insistant, ne m'indiquez-vous pas, dans ce quartier, si quelques personnes qui la connaissent et qui est là et de qui je puisse apprendre où elle loge? Non, reprit-il, elle vient si rarement à l'hôtel, à des heures où il y a peu de monde. Elle y demeure si peu de temps que je ne me souviens pas de l'avoir vu parler à d'autres personnes qu'à monsieur le marquis son fils. Et c'est toujours le matin, encore quelquefois n'est-il pas levé. Y avait-il rien de plus mauvais augure que tout ce que j'entendais là? Que ferais-je donc et quelle est ma ressource? Dis-je d'un air consterné à madame Darcyre, qui commençait aussi à n'avoir pas bonne opinion de tout cela. Il n'est pas possible, en nous informant avec soin, que nous découvrions bientôt où elle est, me dit-elle. Il ne faut pas vous inquiéter, ceci n'est qu'un effet du hasard et des circonstances dans lesquelles vous arrivez. Je lui répondis que par un soupir, et nous nous éloignâmes. Il m'aurait été bien aisé, dans le quartier où nous étions alors, d'aller chercher cette dame avec qui nous avions voyagé, à qui j'avais prêté de l'argent et de qui je devais savoir des nouvelles chez le marquis de Viry, rue Saint-Louis, à ce qu'elle m'avait dit. Mais dans ce moment-là, je ne pense point à elle. Je m'étais occupé que de ma mère, que de mes tristes soupçons sur son état, et que de l'impossibilité où je me voyais de l'embrasser. Madame Darcyre fit tout ce qu'elle put pour rassurer mon esprit et pour dissiper mes alarmes. Mais cette mère, qui était venue à pied chez son fils, que sa lassitude avait obligée de se reposer, cette mère qui faisait si peu de figure, qui était si enterrée que les gens même de son fils ne savaient pas la demeure, me revenait toujours dans la pensée. De la place royale, nous allâmes chez le procureur de Madame Darcy. De là, dans une maison où l'on avait mis le scellé et qui avait appartenu à la personne dont elle était héritière, elle y demeura près d'une heure et demie, et puis nous rentrâmes au logis avec ce procureur à qui elle devait donner quelques papiers dont il avait besoin pour elle. Cet homme, pendant que nous étions dans le carrosse, parla de quelqu'un qui demeurait au Marais et qui devait avoir le lendemain au sujet de sa succession de Madame Darcy. Comme c'était là le quartier du marquis et celui où j'avais espéré de trouver ma mère, je lui demandai s'il ne la connaissait pas, sans lui dire cependant que j'étais sa fille. Oui, me dit-il, je l'ai vue 2 ou 3 fois avant la mort de son mari, qui m'avait en ce temps-là chargé de quelque affaire, mais depuis qu'il est mort, je ne sais plus ce qu'elle est devenue. Je sais seulement lui dire qu'elle n'était pas fort heureuse. Et quel est donc son état? Lui répondis-je avec une émotion que j'avais bien de la peine à recacher. Son fils est si riche et si grand seigneur, ajoutai-je. Il est vrai, reprit-il, et il a épousé la fille de monsieur le duc de. Ben, je crois la marquise brouillée avec lui et avec sa belle-fille. Cette marquise n'était, dit-on, que la veuve d'un très mince et très pauvre gentilhomme de province, dont défunt le marquis devint amoureux dans le pays et qu'il épousa assez étourdiment, tout riche et tout grand seigneur qu'il était lui-même. Aujourd'hui qu'il est mort et que le fils qu'il a eu d'elle s'est marié avec la fille du duc de, il se peut bien faire que cette fille du duc, enfin, je veux dire que madame la marquise la jeune, ne voit pas de très bon œil une belle-mère comme la vieille marquise et ne se soucie pas beaucoup de se voir alliée à tous les petits hobereaux de sa famille et de celle de son premier mari, dont on dit aussi qu'il reste une fille qu'on n'a jamais vue. Et qu'apparemment on n'est pas curieux de voir. Voilà à peu près ce que je puis recueillir de tous les propos que j'ai entendu tenir à ce sujet-là. Les larmes coulaient de mes yeux pendant qu'il parlait ainsi. Je n'avais pu les retenir à cet étrange discours et n'étais pas même en état d'y rien répondre. Madame Darcy, qui était la meilleure femme du monde et qui avait pris de l'amitié pour moi, avait rougi plus d'une fois en l'écoutant. Et s'était même aperçu que je pleurais. Qu'appelle-t-on des hobereaux, monsieur? Lui dit-elle quand il eut fini. Il faut que madame la marquise, la jeune, toute fille de duc qu'elle est, soit bien mal informée, si elle rougit des alliances dont vous parlez. Je lui apprendrai, moi, qui suis du pays de cette belle-mère, qu'elle méprise. Je lui apprendrai que la marquise, qui s'appelle de Trelles en son nom, est l'une des plus nobles et des plus anciennes maisons de notre province. Que celle de monsieur de Thervire, son premier mari, ne le cédant pas à une que je connaisse, et qu'il n'avait point anciennement de plus considérable par l'étendue de ses terres, et que, oh, toute diminuée qu'elle est aujourd'hui de ce côté-là, monsieur de Thervire aurait encore laissé à sa veuve plus de 18 ou 20 000 livres de rente, sans la mauvaise humeur d'un père qui les lui ôta pour les donner à son cadet, et qu'enfin il n'y a ni gentilhomme, ni marquis, ni duc en France qui ne pût avec honneur épouser mademoiselle de Thervire, qui est cette fille qu'on n'a jamais vue à Paris, que madame la marquise laissa effectivement à ses parents quand elle quitta la province, et sur qui aucune fille de ce pays ne l'emportera, ni par la figure, ni par les qualités de l'esprit et du caractère. Le procureur, alors, qui me vit les yeux mouillés, et qui fit réflexion que c'était moi qui lui avais demandé des nouvelles de la vieille marquise, soupçonna que je pouvais bien être cette fille dont il était question. Madame, dit-il un peu confus à Madame Darcy, quoique je n'aie rapporté que les discours d'autrui, j'ai peur d'avoir fait une imprudence. Ne serait-ce pas Mademoiselle de Thervire elle-même que je vois? Il aurait été difficile de lui dissimuler. Ma contenance ne le permettait pas et ne me laissait pas de partis à prendre. Aussi Madame Darcy n'hésita-t-elle point. Oui, monsieur, lui dit-elle, vous ne vous trompez pas. C'est elle, oui, voilà, cette petite provinciale, qu'on n'est pas curieuse de voir, que sans doute on s'imagine être une espèce de paysanne et à qui on serait peut-être fort heureuse de ressembler. Je ne crois pas qu'on y perdît, de quelque manière qu'on soit faite, répondit-il, en me suppliant de lui pardonner ce qu'il avait dit. Notre carrosse arrêtait en ce moment, nous étions arrivés, et je ne lui répondis que par une inclination de tête. Vous jugez bien que dès qu'il fut sorti, je n'oubliais pas de remercier Madame Darcyre du portrait flatteur qu'elle avait fait de moi, et de cette colère vraiment obligeante avec laquelle elle avait défendu ma famille et vengé les miens des mépris de ma belle-sœur. Mais ce que le procureur nous avait dit ne servit qu'à me confirmer dans ce que je pensais de la situation de ma mère, et plus je la croyais à plaindre, plus il m'était douloureux de ne savoir où l'aller chercher. Il est vrai qu'à proprement parler, je ne la connaissais pas, mais c'était cela même qui me donnait ce désir ardent que j'avais de la voir. C'est une si grande et si intéressante aventure que celle de retrouver une mère qui vous est inconnue. Ce seul nom qu'elle porte a quelque chose de si doux, ce qui contribuait encore beaucoup à m'attendrir pour la mienne. C'était de penser qu'on la méprisait, qu'elle était humiliée, qu'elle avait des chagrins, qu'elle souffrait même, car j'allais jusque-là, et je partageais mon humiliation et ses peines. Mon amour-propre était de moitié avec le sien, dans tous les affronts que je supposais qu'elle essuyait, et j'avais eu, ce me semble, un plaisir extrême à lui montrer combien j'y étais sensible. Il se peut bien que mon empressement n'eût pas été si vif si je l'avais su plus heureuse, et c'est que je ne me serais pas flatté non plus d'être si bien reçu. Mais j'arrivais dans des circonstances qui ne répondaient de son cœur. J'étais comme sûr de la trouver meilleure mère, et je comptais sur sa tendresse à cause de son malheur. Malgré toutes les informations que nous fîmes, Madame Darcy et moi, nous avions déjà passé les 12 ou 15 jours à Paris sans avoir pu découvrir où elle était, et j'en mourais d'impatience et de chagrin. Partout où nous allions, nous parlions d'elle. Bien des gens la connaissaient. Tout le monde savait quelque chose de ce qui lui était arrivé. Les uns plus, les autres moins, mais comme je ne disais point que j'étais sa fille, que je me produisais sous ce nom-là, je m'apercevais bien qu'on me ménageait, qu'on ne me disait pas tout ce qu'on savait, et le peu que j'en apprenais signifiait toujours qu'elle n'était pas à son aise. Excédé enfin de l'inutilité de mes efforts pour la trouver, nous retournâmes au bout de 2 jours, Madame Darcy et moi, à la place royale, dans l'espérance que ma mère y serait revenue elle-même, qu'on lui aurait dit que deux dames étaient venues l'y demander, qu'en conséquence, elle aurait bien pu laisser son adresse afin qu'on la leur donnât si elle revenait la chercher. Autre peine inutile. Ma mère n'avait pas reparu. On lui avait dit la première fois que le marquis ne serait de retour que dans 3 semaines ou un mois, et sans doute elle attendait que ce temps-là fût passé pour se remontrer. Ce fut du moins ce qu'en pensa Madame Darcyre, qui me le persuada aussi. Tout affligé que j'étais de voir toujours se prolonger mes inquiétudes, je m'avisai de songer que nous étions dans le quartier de Madame d'Arneuil, de cette dame de la voiture dont l'adresse était chez le marquis de Viry, avec qui, comme vous savez, je m'étais lié d'une amitié assez tendre et à qui d'ailleurs j'avais promis de donner de mes nouvelles. Je proposai donc à Madame d'Arcyre d'aller la voir, puisque nous étions si près de la rue Saint-Louis. Elle y consentit, et la première maison à laquelle nous nous arrêtâmes pour demander celle du marquis de Viry était attenante à la sienne. C'est la porte d'après, nous dit-on. Et un des gens de Madame Darcy n'y frappa sur le champ. Personne ne venait. On redoubla, et après un intervalle de temps assez considérable, parut un très vieux domestique à longs cheveux blancs, qui, sans attendre qu'on lui fît de questions, nous dit d'abord que Monsieur de Viry était à Versailles avec madame. « Mais ce n'est pas à lui que nous en voulons, lui répondis-je, c'est à Madame d'Arneuil. « Ah, Madame d'Arneuil, ben ne loge pas ici, reprit-il. « Mais n'êtes-vous pas des dames nouvellement arrivées de province? » Depuis 10 ou 12 jours, lui dîmes-nous. Eh bien, ayez la bonté d'attendre un instant, repartit-il. Je vais vous faire parler à une des femmes de madame qui n'a rien commandé de l'avertir quand vous viendrez. Et là-dessus, il nous quitta pour aller lentement chercher cette femme qui descendit et qui va nous parler à la porte de notre carrosse. Pouvez-vous, lui dis-je, nous apprendre où est madame Darneuil? Nous avons cru la trouver ici. Oh non, mesdames, elle n'y demeure pas, répondit-elle. Mais n'est-ce pas avec vous, mademoiselle, qu'elle arriva à Paris ces jours passés et qu'il lui prêta de l'argent? Ajouta-t-elle en m'adressant la parole. Oui, c'est moi-même qui la forçais d'en prendre, lui dis-je, et j'aurais été charmé de la revoir. Où est-elle? Dans le faubourg Saint-Germain, me dit cette femme. Et c'était précisément notre quartier. J'ai même été avant-hier chez elle, mais je me souviens pas du nom de sa rue, et elle m'a chargé, dans l'absence de monsieur le marquis et de madame, de m'informer où vous logez, si on venait de votre part, et de remettre en même temps ces 2 louis d'or que voici. Je les pris. Tâchez, lui dis-je, de la voir demain. Retenez bien, je vous prie, où elle demeure, et vous me le ferez savoir par quelqu'un que j'enverrai ici dans 2 ou 3 jours. Elle me le promit et nous partîmes. En rentrant au logis, nous vîmes à 2 portes au-dessus de la nôtre une grande quantité de peuple assemblée. Tout le monde était aux fenêtres. Il semblait qu'il y avait eu une rumeur ou quelque accident considérable. Nous demandâmes ce que c'était. Pendant que nous parlions, arriva notre hôtesse, grosse bourgeoise d'assez bonne mine, qui sortait du milieu de cette foule, de l'air d'une femme qui avait eu part à l'aventure. Elle gesticulait beaucoup, elle levait les épaules, et une partie de ce peuple l'entourait, et elle était suivie d'un petit homme assez mal arrangé, qui avait un tablier autour de lui et qui lui parlait le chapeau à la main. De quoi s'agit-il donc, madame? Lui dîmes-nous dès qu'elle se fut approchée. Dans un moment, nous répondit-elle. J'irai vous le dire, mesdames. Il faut auparavant que je finisse avec cet homme-ci. Qu'elle mena effectivement chez elle. Un demi quart d'heure après, elle revint nous trouver. Oh, je viens de voir la chose du monde qui m'a le plus touchée, nous dit-elle. Celui que vous avez vu avec moi tout à l'heure est le maître d'une auberge d'ici près, chez qui, depuis 10 ou 12 jours, est venue se loger une femme passablement bien mise, qui même par ses discours et par ses manières n'a pas trop l'air d'une femme du commun. Je viens de lui parler. Oh, j'en suis encore tout ému. Imaginez-vous, mesdames, que la fièvre l'a prise 2 jours après être entrée chez cet homme qui ne la connaît point, qui lui a loué une de ses chambres et lui a fait crédit jusqu'ici sans lui demander d'argent, quoique dès le lendemain de son entrée chez lui, elle lui promit de lui en donner. Vous jugez bien que dans sa fièvre, il lui a fallu des secours qui ont exigé une certaine dépense, et il ne lui en a refusé aucun. Il a toujours tout avancé, mais cet homme n'est pas riche. Elle se porte un peu mieux aujourd'hui. Un chirurgien qui l'a saignée, qui a eu soin d'elle, qui lui a tenu lieu de médecin, un apothicaire qui lui a fourni des remèdes, demande à penser tous deux à être payés. Ils ont été chez elle, elle n'a pas pu les satisfaire, et sur le champ, ils se sont adressés au maître de l'auberge, qui les a été chercher pour elle. Et celui-ci, effrayé de voir qu'elle n'avait pas même de quoi les payer, a non seulement eu peur de perdre aussi ce qu'elle lui devait, mais encore ce qu'il continuerait à lui avancer. Sur ces entrefaites est arrivé un petit marchand de province qui loge ordinairement chez lui. Toutes ses chambres sont louées, il n'y a que celle de cette femme qu'il regardait comme vide parce qu'elle ne lui donnait point d'argent. Là-dessus, il a pris son parti, il a été lui parler pour la prier de se pourvoir d'une chambre ailleurs, attendu qu'il se présentait une occasion de mettre dans la sienne quelqu'un dont il était sûr et qui comptait l'occuper au retour de quelques courses qu'il était allé faire dans Paris. Vous me devez déjà beaucoup, a-t-il ajouté. Et je ne vous dis point de me payer, mais laissez-moi seulement quelques nippes pour mes sûretés, et ne m'ôtez point le profit que je puis retirer de ma chambre. » À ces discours, cette femme, qui est peu rétablie, mais encore trop faible pour sortir de sa chambre et de fermer une cassette qu'il voulait retenir pour nantissement, de sorte que la querelle alors se passait dans une salle où ils étaient descendus et où cet homme et sa fille criaient à toute voix contre cette femme qui résistait à s'en aller. Alors le bruit, ou plutôt le vacarme qu'il faisait, avait déjà amassé bien du monde, dont une partie était même entrée dans cette salle. Je revenais alors de chez une de mes amies qui demeure ici près, et comme c'est de moi que cet homme tient la maison qu'il occupe et qui m'appartient, je me suis arrêté un moment en passant pour savoir d'où venait ce bruit. Cet homme m'a vu, m'a prié d'entrer et m'a exposé le fait. Cette femme y a répondu inutilement ce que je viens de vous dire. Elle pleurait, et je la voyais plus confuse et plus consternée que hardie. Elle se défendait presque que par sa douleur. Elle ne jetait que des soupirs, avec un visage plus pâle et plus défait que je ne puis vous l'exprimer. Alors elle m'a tiré à quartier, m'a supplié, si j'avais quelque pouvoir sur cet homme, de l'engager à lui accorder le peu de jours de délai qu'elle lui demandait. M'a donné sa parole qu'il serait payé, enfin m'a parlé d'un air et d'un ton qui m'ont pénétré d'une véritable pitié. J'ai même senti de la considération pour elle. Il n'était question que de 10 écus. Si je les perds, ils ne me nuiront pas. Et Dieu m'en rendra compte. Il n'y a rien de perdu avec lui. J'ai donc dit que j'allais les payer, j'allais faire remonter dans sa chambre, où l'on a remonté sa cassette, et j'ai emmené cet homme pour lui compter son argent chez moi. Voilà, mesdames, mot pour mot, l'histoire que je vous conte tout entière, à cause de l'impression qu'elle m'a faite. Et il en arrivera ce qui pourra, mais je n'aurai pas eu le temps de repos avec moi sans les 10 écus que j'ai avancés.
Je l'appréciais beaucoup de se mettre à la mienne, et l'appréciais d'une manière aussi sincère qu'obligeante. Elle parut extrêmement touchée de mes instances, me fit sentir combien elle les estimait de ma part, et mêla quelque chose de si flatteur pour moi dans ce qu'elle me répondit, que mes empressements en redoublèrent, mais il n'y eut pas moyen de la persuader, et en effet, son indisposition se passa. Comme elle était placée auprès de moi, nous avions de temps en temps de petites conversations ensemble. La dame, que j'ai appelée ma compagne et qui était d'un certain âge, m'appelait presque toujours sa fille quand elle me parlait, et là-dessus notre inconnue crut qu'elle était ma mère. « Oh non, lui dis-je, c'est une amie de ma famille qui a eu la bonté de se charger de moi jusqu'à Paris, où nous allons toutes deux, elle pour recueillir une succession et moi pour joindre ma mère, qu'il y a longtemps que je l'ai vue. » « Je voudrais bien être cette mère-là, » me dit-elle d'un air doux et caressant, sans me faire de questions sur le pays d'où je venais et sans me parler de ce qui la regardait. Nous arrivâmes à l'endroit où nous devions dîner. Il faisait un fort beau jour et il y avait dans l'hôtellerie un jardin qui me parut assez joli. Je fus curieuse de le voir et j'y entrai. Je m'y promenai même quelques instants pour me délasser d'avoir été assise toute la matinée. Madame Darcyr, c'est le nom de ma compagne, était à l'entrée de ce jardin avec l'ecclésiastique dont je vous ai parlé, pendant que l'officier ordonnait notre dîner. L'autre voyageur, incommodé, et sa femme était déjà montée dans la chambre où l'on devait nous servir et où ils s'attendaient. L'officier revint et dit à Madame Darcyr qu'il ne nous manquait que notre nouvelle venue, qui s'était retirée et qui apparemment avait dessein de manger à part. Je me promenais alors dans un petit bois que cette dame eut envie de voir aussi. L'ecclésiastique et l'officier la suivirent. Il y avait déjà une bonne demi-heure que nous y amusions, quand le laquais de Madame Darcyr vint nous avertir qu'on allait servir. Nous prîmes donc le chemin de la chambre où je viens de vous dire que deux de nos voyageurs étaient d'abord montés. J'ignorais que notre inconnue se fût séparée. On n'en avait rien dit devant moi, de sorte qu'en traversant la cour, je la vis dans un cabinet à rez-de-chaussée, dont les fenêtres étaient ouvertes, et on lui apportait à manger dans le même moment. « Comment ? » dis-je à l'officier, « est-ce dans ce cabinet que nous dînons ? Oh, nous n'y serons guère à notre aise. Oh, si n'est-ce pas là que nous allons, me répondit-il. C'est en haut, mais cette dame a voulu dîner toute seule. Il n'y a pas d'apparence qu'elle eût pris ce parti-là si on l'avait privée d'être des nôtres, repris-je. Peut-être s'attend-elle là-dessus à une politesse que personne ne doit de nous ne lui a faite, et je suis avis d'aller sur le champ réparer cette faute. Je laissai en effet monter les autres et me hâtai d'entrer dans ce cabinet. Elle prenait sa serviette et n'avait pas encore touché à ce qu'on lui avait apporté. C'était un potage et de l'autre côté un peu de viande bouillie sur une assiette. J'avoue qu'un repas si frugal m'étonna. Elle rougit elle-même que j'en fusse témoin, mais lui cachant ma surprise. « Et quoi, madame, lui dis-je, vous nous quittez ? Nous n'aurons pas l'honneur de dîner avec vous ? Oh, nous ne souffrirons pas cette séparation-là, s'il vous plaît. Oh, heureusement que j'arrive à propos. Vous n'avez point encore mangé, et je vous enlève de la part de toute la compagnie. On ne se mettra point à table que vous ne soyez venu. » Elle s'était brusquement levée, comme pour m'écarter de la table et de la vue de son dîner. Je me conformai à son intention et ne m'avançai pas. « Non, mademoiselle, me répondit-elle en m'embrassant, oh, ne prenez point garde à moi, je vous prie. J'ai été longtemps malade, je suis encore convalescente. Il faut que j'observe un régime qui m'est nécessaire et que j'obséderai mal en compagnie. Voilà mes raisons. Voyez si vous voulez que je m'expose. Je suis bien sûr que non, et vous seriez la première à m'en empêcher. » Je crus de bonne foi ce qu'elle me disait, et je n'en insistais pas moins. « Mais je ne me rends point, lui dis-je, et je ne veux point vous laisser seule. Venez, madame, et fiez-vous à moi. Je veillerai sur vous avec la dernière rigueur. Je vous garderai à vue. On n'a pas encore servi, il n'y a qu'à dire en passant qu'on joigne votre dîner au nôtre, et je le prenais, la prenais sous le pas pour m'emmener en lui parlant ainsi. De sorte que je l'entraînais déjà, sans qu'il eût su que me répondre, malgré la répugnance que je lui voyais toujours. « Mon Dieu, mademoiselle, me dit-elle en s'arrêtant d'un air triste et même douloureux, que votre empressement me fait plein de plaisir et de peine. Faut-il vous parler confidemment ? Je viens d'une petite maison de campagne que j'ai d'ici près. J'y avais apporté un certain argent pour y passer encore un mois. Alors je sortais de maladie, la fièvre m'y a reprise. Je m'y suis laissé gagner par le temps. Il me reste bien précisément que ce qu'il me faut pour retourner à Paris, où je serai demain, et je ne songe qu'à arriver. Ce que je vous dis là, au reste, n'est fait que pour vous, mademoiselle, vous le sentez bien, et vous aurez la bonté de m'excuser auprès des autres sur ma santé. » Quelque peu de souci qu'elle affecta d'avoir elle-même de cette disette d'argent, qu'elle m'avouait et qu'elle voulait que je regardasse comme un accident sans conséquence, ce qu'elle me disait là me toucha cependant, et je crus voir moins de tranquillité sur son visage qu'elle n'en marquait dans son discours. Il y a de certains états où l'on ne prend pas l'air qu'on veut. « Eh, madame, m'écriai-je avec une franchise vive et badine, et en lui mettant ma bourse dans la main, que j'ai l'honneur de vous être bonne à quelque chose. Servez-vous de cet argent jusqu'à Paris, puisque vous avez négligé d'en faire venir et ne me punissez point du peu de précaution que vous avez prise. » Je déliai les cordons de la bourse en lui parlant ainsi. « Prenez ce qu'il vous faut, ajoutai-je. Si vous n'en avez pas besoin, vous me le rendrez en arrivant, sinon vous me le renverrez le lendemain. » Elle le jeta comme un soupir alors, et laissa même, sans doute malgré elle, échapper une larme. « Vous êtes trop aimable, me répondit-elle ensuite, avec un embarras qu'elle combattait. Vous me charmez, vous me pénétrez d'amitié pour vous. Mais je puis me passer de ce que vous m'offrez de si bonne grâce. Souffrez que je vous remercie. Il n'y a personne de quelque considération dans ces campagnes-ci qui ne me connaisse et chez qui je puisse envoyer, si je voulais. Mais ce n'est pas la peine, je serai demain chez moi. S'il vous est indifférent de rester seul ici, lui répondis-je d'un air mortifié, il ne me l'aurait pas été d'être quelques heures de plus avec vous. C'était une grâce que je vous demandais et qu'à la vérité, je ne mérite pas d'obtenir. Que vous ne méritez pas, me répondit-elle en joignant les mains. Et comment ferait-on pour ne pas vous aimer? Eh bien, mademoiselle, que voulez-vous que je prenne? Puisque vous me menacez de croire que je ne vous aime pas, je ferai tout ce que vous exigerez et je vais vous suivre. Êtes-vous contente? C'était en tenant ma bourse qu'elle me disait cela. Je l'embrassai de joie, car toutes ses façons me plaisaient. Je l'ai trouvée noble et affectueuse, et ce petit moment de conversation particulière venait encore de me lier à elle. De son côté, elle me serra tendrement dans ses bras. « Ne disputons plus, me dit-elle. Voilà un de vos louis que je prends. C'est assez, puisqu'il n'est question que de prendre. « Non, répondis-je en riant, n'y eut-il qu'un quart de lieue d'ici chez vous, je vous taxe à davantage. « Eh bien, mettez-en deux, nous allons avoir la paix, et marchons, reprit-elle. Je l'emmenai donc. Il y avait un instant qu'on avait servi et on nous attendait. On la combla de politesse et Madame Darcy, surtout, eut mille attentions pour elle. Je lui avais promis de veiller sur elle à table et je lui tins parole, du moins pour la forme. On m'en fit la guerre, on me querella, je ne m'en souciais point. C'est une rigueur à laquelle je me suis engagé, dis-je, madame. Elle n'est venue qu'à cette condition-là et je fais ma charge. Ma prétendue rigueur n'était cependant qu'un prétexte pour lui servir ce qu'il y avait de meilleur et de plus délicat. Et quoique, pour entrer dans le badinage, elle se plaignit d'être trop gênée, il est vrai qu'elle mangea très peu. Nous sentîmes tous combien nous aurions perdu si elle nous avait manqué. Il me sembla que nous étions devenus plus aimables avec elle et que nous avions tous plus d'esprit qu'à l'ordinaire. Enfin, le dîner fini, nous remontâmes en carrosse et le souper se passa de même. Nous n'étions plus le lendemain qu'à 1 lieue de Paris quand nous vîmes un équipage s'arrêter près de notre voiture et que nous entendîmes quelqu'un qui demandait si Madame Darcy n'était pas là. C'était un homme d'affaires à qui elle avait écrit de venir au-devant d'elle et de lui chercher un hôtel où elle pût avoir un logement convenable. Elle se montra sur le champ. Mais comme nous avions quelques paquets engagés dans le magasin, que le lieu n'était pas commode pour les retirer, nous jugeâmes à propos de ne descendre qu'à un petit village qui n'était plus qu'à 1/4 de lieue et où notre cocher nous dit qu'il s'arrêterait lui-même. Pendant qu'on y travailla à retirer nos paquets, mon inconnu me prit à quartier dans une petite cour et voulut, en m'embrassant, me rendre les 2 louis d'or que j'avais forcé de prendre. « Mais vous n'y songez pas, lui dis-je, vous n'êtes pas encore arrivé. Gardez-les jusque chez vous. Que je les reprenne aujourd'hui ou demain, n'est-ce pas la même chose? Avez-vous l'intention de ne pas me revoir? Et me quittez-vous pour toujours? J'en serais bien fâché, me répondit-elle, mais nous voici à Paris. Nous allons y entrer. C'est comme si j'y étais. Vous avez beau dire, repris-je en me reculant. Je me méfie de vous, et je vous laisse cet argent précisément pour vous obliger à m'apprendre où vous retrouverez. Elle se mit à rire et s'avança vers moi, mais je m'éloignai encore. Oh, ce que vous faites là est inutile, lui criai-je. Donnez-moi mes sûretés. Où logez-vous? Je ne vous en aurai pas moins instruit de l'endroit où je vais, me répartit-elle. Mon nom est Darneuil. Ce n'était là que le nom d'une petite terre, et elle me cachait le véritable. Et vous aurez de mes nouvelles chez monsieur le marquis de Viry, rue Saint-Louis, au Marais. C'était un de ses amis. Dites-moi à présent, à votre tour, ajouta-t-elle, où je vous trouverai. Oh, je ne sais point le nom du quartier où nous allons, lui répondis-je, mais demain j'enverrai quelqu'un qui vous le dira, si je ne vais pas vous le dire moi-même. J'entendis alors Madame Darcyre qui m'appelait, et je me hâtai de sortir de la petite cour pour la joindre. Mon inconnue me suivit, et elle dit adieu à Madame Darcyre. Je l'embrassai tendrement, et nous partîmes. En 1 heure de temps, nous arrivâmes à la maison que cet homme d'affaires dont j'ai parlé nous avait retenue. Comme la journée n'était pas encore fort avancée, j'aurais volontiers été chercher ma mère, si Madame Darcyre, qui se sentait trop fatiguée pour m'accompagner et dont je ne pouvais prendre que la femme de chambre, ne m'avait engagé à attendre jusqu'au lendemain. J'attendis donc, d'autant plus qu'on me dit qu'il y avait fort loin du quartier où nous étions à celui où je devais aller trouver cette mère qui me tardait avec tant de raisons de voir et de connaître. Aussi Madame Darcyre ne me fit-elle pas languir le jour d'après. Elle eut la bonté de préférer mes affaires à toutes les siennes, et à 11 heures du matin, nous étions déjà en carrosse pour nous rendre dans la rue Saint-Honoré, vis-à-vis des Capucins, conformément à l'adresse que j'avais gardée de ma mère et à laquelle je lui avais écrit mes dernières lettres, qui étaient restées sans réponse. Notre carrosse arrêta donc à l'endroit que je viens de dire, et là nous demandâmes la maison de Madame la Marquise de. C'était le nom de son mari. Elle n'est plus ici, nous répondit un Suisse, ou un portier, je ne sais plus lequel des deux. Elle y logeait il y a environ 2 ans, mais depuis que monsieur le marquis est mort, son fils a vendu la maison à mon maître qui l'occupe à présent. Monsieur le marquis est mort? M'écriai-je tout troublé, et même saisi d'une certaine épouvante que je ne devais pas avoir, car dans le fond, que m'importait la mort de ce beau-père qui m'était inconnu, à qui je n'avais jamais eu moindre complication, et sans lequel, au contraire, ma mère ne m'aurait pas vraisemblablement oublié autant qu'elle l'avait fait. Cependant, en apprenant qu'il ne vivait plus et qu'il avait un fils marié, je craignis pour ma mère qu'il m'avait laissé ignorer tous ces événements. Le silence qu'elle avait gardé là-dessus m'alarma. J'aperçus confusément des choses tristes et pour elle et pour moi. En un mot, cette nouvelle me frappa comme si elle avait entraîné 1000 autres accidents fâcheux que je redoutais sans savoir pourquoi. Et depuis quand est-il donc mort? Répondis-je d'une voix altérée. Bon, c'est depuis 17 ou 18 mois, je pense, reprit cet homme. Et 6 ou 7 semaines après avoir marié monsieur le marquis, son fils, qui vient ici quelquefois et qui demeure à présent à la place royale. Et la marquise, sa mère, lui dis-je encore, loge-t-elle avec lui? Mais on ne croit pas, me répondit-il. Il me semble avoir entendu dire que non, mais vous n'avez qu'à aller chez lui pour apprendre si elle est, apparemment, qu'on vous en informera. Eh bien, me dit alors Madame Darcyre, il n'y a qu'à retourner au logis et nous irons à la place royale après dîner. D'autant plus que j'ai moi-même affaire de ces côtés-là. Comme vous voudrez, lui répondis-je d'un air inquiet et agité. Et nous revînmes à la maison. Vous voilà bien rêveuse, me dit en chemin Madame Darcyre. À quoi pensez-vous donc? Est-ce la mort de votre beau-père qui vous afflige? Non, lui dis-je, ne pourrais en être touchée que pour ma mère, que cet accident intéresse peut-être de plus d'une façon. Mais ce qui m'occupe à présent, c'est le chagrin de ne le point voir et de n'être pas sûr que je la trouverai chez son fils, puisqu'on vient de nous dire qu'on ne croit pas qu'elle y loge. Ce n'est pas un grand inconvénient, me dit-elle, si elle n'y loge pas. Mais nous irons chez elle. Madame Darcyre fit arrêter chez quelques marchands pour des emplettes. Nous rentrâmes ensuite au logis. 3 quarts d'heure après le dîner, nous remontâmes en carrosse avec son homme d'affaires qui venait d'arriver, et nous prîmes le chemin de la place royale, où cette dame, par égard pour mon impatience, voulut me mener d'abord dans l'intention de m'y laisser, si nous y trouvions ma mère, et d'aller de là à ses propres affaires et de revenir me reprendre sur le soir, s'il le fallait.